Avec Podcast, la 13e édition et avant-dernière pour ce qui est de 2018. Salut Claude Boucher.
Salut Marc-André.
On va faire ça à 14 finalement pour cette première saison de l'Avec Podcast.
Oui, tant mieux, notre première session.
Exactement. Et la prochaine, d'ailleurs, on vous invite à nous contacter sur les différents réseaux sociaux parce que la prochaine sera dédiée au bilan de la première portion de calendrier chez les Cataractes. Alors, on vous invite à participer et à nous envoyer vos commentaires, questions peut-être également, ou analyses si vous en avez aussi. On pourrait intégrer ça à la balado-diffusion, assurément. Et on est facilement trouvable sur les différents réseaux. Ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, Claude,
oui.
J'ai le goût de te dire que ça a été un week-end probablement difficile pour les gars sur la glace, mais aussi pour le descripteur qui manquait de souffle à certains moments.
Écoute, le descripteur était grippé en plus en fin de semaine. C'était pas nécessairement évident, mais c'était surtout difficile à un moment donné d'essayer de trouver une façon d'écrire ce qui se passait sur la patinoire. Bon, les Cataractes ont subi deux dégelés en fin de semaine.
Ouais.
9-1 contre Rimouski vendredi à Shawinigan et 11-1 dimanche à Drummondville. Tu sais, à un moment donné, tu veux pas nécessairement t'acharner sur l'équipe qui faisait son possible, mais ça marchait pas. Puis il y avait vraiment, vraiment rien qui marchait en fin de semaine pour les Cataractes.
Ouais. Et je reprends un peu les propos de Martin Mondou sur nos ondes cette semaine dans l'émission de Robert Pilote qui disait contre les équipes. Disons normal, on est capable de compétitionner contre les puissances comme celle-là, puis c'est des super puissances. Quand tu penses, entre autres, j'ai les Voltigeurs en tête, sans rien enlever à l'Océanique, oui, Lafrenière, mais tu sais, c'est surtout Lafrenière, l'Océanique et quelques bons gars autour.
Vendredi, c'est ça, Lafrenière a attiré les joueurs des Cataractes, puis c'est les gars autour qui ont fait le travail, là.
Parce que tu regardes les Voltigeurs, tu sais, il y a trois gars dans cet alignement-là qui pourraient faire équipe Canada Junior.
Oui, il y en a trois d'ailleurs qui sont partis au camp d'équipe Canada Junior et qui ont des chances de le faire. Dans le cas de Maxime Comtois, c'est à peu près assuré. Joe Valeno, ouais. Ça va bien actuellement pour lui. Voyons voir ce qu'il fera au camp. On va reparler de toute façon du camp d'équipe Canada Junior dans quelques instants. Puis l'autre, c'est Nicolas Baudin, qui est un excellent défenseur. Mais tu sais, tu prends le premier trio des Cataractes, puis je pense qu'il n'y a aucun des trois joueurs qui serait sur le premier trio des Voltigeurs actuellement. Il serait au moins deuxième, sinon troisième ligne.
Ouais.
À quel point il y avait un décalage sur papier entre les deux formations. Tu sais, on va être honnête, là, avant le match de dimanche, c'était écrit dans le ciel que ça allait se passer comme ça. Si les Cataractes avaient eu leur alignement complet, dimanche à Drummondville, ils auraient peut-être perdu 6-7-1, 6-2, 7-2. Des blessés et des absents. T'sais, dans le cas de Yandros, qui est parti au championnat mondial junior pour la Slovénie, Vincent Sonnet suspendu, Simon Benoît qui est resté chez les pros, Colin Paradis qui est blessé, Olivier Desroches qui est blessé, William Cummings qui était malade pour le match de dimanche. C'est pas nécessairement le gars qui aurait eu le plus d'impact dans le match, mais qui n'empêche que ce sont des réguliers qui n'étaient pas là.
Mm-hmm.
Martin Mondou en a dénombré 7, là, vite par cœur, je n'ai pas été capable de tous les nommer, mais c'est un fait. Il y avait 7 réguliers qui n'étaient pas là chez les Cataractes dimanche. Puis même s'ils avaient été là, bien, les Voltigeurs, c'est une puissance dans la Ligue, puis on l'a vu dimanche. Ils en ont profité, mettons.
Oui, exactement, exactement. Donc, tu sais, oui, week-end difficile. En même temps, je pense qu'il faut prendre ça avec un certain recul parce que ce sont des super puissances. C'est pas juste. Ce sont des équipes qui sont à maturité puis qui visent les grands honneurs. Fait que je pense que, tu sais, je dis pas si on s'est fait planter comme ça par, sans rien enlever, mais par Val d'Or ou par Blainville ou par, mettons, une équipe de milieu de classement.
Ça aurait fait vraiment mal. L'aspect le plus dommageable, le plus dommage, je pense, et Daniel Renault l'a mentionné après le match de vendredi, c'est que quand c'est venu 3-1 en fin de première période contre l'Océanique, puis 4-1 tôt en deuxième période, les gars, ils ont abandonné complètement.
C'est difficile de se motiver dans
mais
une saison
oui,
comme ça un peu.
C'est sûr. Oui, t'as raison. C'est humain. C'est humain. C'est difficile de se motiver dans une situation comme celle-là. Dimanche, à Drummondville, même quand c'était rendu 9-10-1, au moins, on a vu des joueurs essayer des choses offensivement, essayer d'amener la rondelle au filet des Voltigeurs, même s'ils ont été finalement dominés 57-17 au chapitre des lancers.
Ouais.
Ça n'a pas donné beaucoup plus de résultats, mais au moins, il y a des gars qui essayaient. Puis Martin Mondou l'a fait remarquer dans l'entrevue au 106.9 cette semaine. C'est un fait que Maverick Bourque, dimanche, a fini le match à +1. Ça veut dire qu'il n'était pas sur la patinoire pour aucun des 11 buts de l'adversaire. Oui, mais tu sais, tu trouves le positif où il y en a, puis il faut croire qu'il y en a eu quand même un petit peu dans le match de dimanche.
Ouais, ne serait-ce que pour trouver le moyen de ne pas être sur la glace pour un des 11 buts, ça c'est juste ça. C'est un exploit, on le dit un petit peu avec un sourire en coin, mais quand même, effectivement. Puis bref, Martin Mondou, dans tout ça, parlait de progression, et c'est ça que j'ai pas détesté. T'sais, oui, la saison est difficile, mais la majorité des joueurs ont fait un pas en avant depuis une quinzaine de matchs.
Oui, puis honnêtement, si on compare à il y a un an, j'y vais de mémoire, je pense qu'il y a un an, les Cataractes étaient derniers au classement général, sont 16e. Là. Puis ils ont quand même une pas pire avance sur Bathurst et St. John, avance de 7 points. C'est quand même relativement confortable. On s'entend qu'avec 38 matchs à jouer, tu ne t'assois pas là-dessus pour dire hey, on va faire les séries. Ça regarde mieux. T'sais. À court terme, l'avenir est quand même meilleur que ce qu'il y avait la saison dernière. Puis je veux revenir sur un point aussi pour le match de dimanche. En partant, les Cataractes, défensivement, on le sait que c'est le talon d'Achille de l'équipe. Mais ils étaient privés des deux premiers défenseurs pour le match. Puis d'ailleurs, c'est comme ça depuis quelques semaines. Colin Paradis, Olivier Desroches sont sur la liste des blessés. Fait que là, ton défenseur numéro 3 devient ton numéro 1. Mm-hmm. C'est Leon Denis. Puis il se blesse en première période. Fait que là, tu te retrouves avec ton numéro 4 qui devient le numéro 1. Ouais. Le 5, le 2, bon, vous voyez la suite des choses. Puis avec une défensive donc déjà démunie d'avance, c'était, je le répète, c'est écrit dans le ciel que ça allait se terminer comme ça s'est terminé dimanche.
Ouais, qui a été surmené en plus. Alors ben ça n'a pas aidé, effectivement. Ce qui nous mène un peu aussi au second sujet qu'on aborde aujourd'hui, soit la période des transactions. C'est toujours un moment très attendu des fans de hockey junior et on rentre dans cette fenêtre-là des transactions et je suis très curieux de voir les mouvements qui vont se faire à travers la Ligue, mais aussi chez les Cats. Honnêtement, je suis très intrigué de ce que va faire ou ne pas faire Martin Mondou.
Ben honnêtement, du côté des Cataractes de Shawinigan, je le dis pas négativement, c'est peut-être une des équipes qui a peut-être le moins de matériel à mettre dans la fenêtre pour offrir aux autres équipes. Tu sais, tu regardes le Titan de la Cadibateur, c'est un joyau qui s'appelle Noah Dobson qui sera probablement le joueur le plus convoité. C'est sûr que le Titan va en profiter pour se regarnir en termes de choix de repêchage. Les Sea Dogs de St. John, de leur côté, ont un excellent gardien de but qui s'appelle Alex Doriot, qui lui aussi passera pas les fêtes dans les Maritimes. Du côté des Cataractes, ben moi, je me disais peut-être, Vincent Sonnet a-t-il un certain attrait? Mais Vincent Sonnet a 20 ans, et puis les équipes qui d'habitude sont acheteuses du côté des joueurs de 20 ans sont déjà assez bien nantis, merci. Ouais. Et puis, Vincent Sonnet a aussi sa réputation qui le suit, essaye de s'en débarrasser, mais ça le rattrape toujours un petit peu. Et je me disais, mais à part ça, qui pourrait être intéressant? Et là, en jasant avec Steve Turcotte en fin de semaine, Steve a sorti deux noms que moi, je n'avais pas vu venir. Yann Drozd, c'est tout à fait logique.
Ben oui, je trouvais ça dans sa chronique.
Ben oui, c'est le meilleur joueur offensif chez les Cataractes de Shawinigan. Lui a une certaine valeur. C'est un Européen. Ça peut-être ennuyer Martin Mondou dans une éventuelle transaction, mais ça reste à voir. C'est un fait que c'est un joueur qui serait intéressant pour d'autres équipes. Et puis, là, Steve m'a carrément pris par surprise. Roddy Sandilands, le capitaine des Cataractes défenseur qui est arrivé la saison dernière de l'Ontario. C'est un défenseur défensif et on le sait que pour des équipes qui visent le championnat, d'avoir des gars sûrs en défensive, c'est toujours gagnant.
Travaille tous les soirs aussi.
Oui, effectivement. Et c'est pas le plus talentueux, mais par contre, au niveau leadership, avec les tests que les entraîneurs ont fait passer aux joueurs, c'est lui qui est sorti numéro un là, pour le poste de capitaine. Ben, je pense que c'est pas bête qu'il pourrait avoir un certain attrait pour les autres équipes. Reste à voir si Martin Mondou recevra les offres qu'il attend en retour de ses joueurs.
Oui, parce que dans le cas de Sandilands, bon, c'est un défenseur de 19 ans, si ma mémoire est bonne.
Oui.
Donc,
et à peu près assuré,
il revient pour 20 ans. Là.
À peu près assuré qu'il sera de retour la saison prochaine comme 20 ans, s'il est encore avec les Cataractes dans une autre formation. Ça dépend. C'est une valeur sûre, défensivement parlant. Ailleurs, dans la Ligue, on a parlé de Noah Dobson, c'est sûr et certain qu'il va quitter Bathurst. Quoique, c'est un peu compliqué, ce sont les Saguenay-Chicoutimi là, qui ont l'air à gérer tout ça à la suite d'une transaction. Il y a Joel Teasdale avec l'Armada de Blainville-Boisbriand qui connaît une excellente saison également. Probablement un des joueurs les plus complets dans la Ligue cette année.
Propriété du Canadien, par de ça.
Oui, effectivement. L'Armada qui est 12e actuellement au classement général au moment où on enregistre la chronique avec un total de 29 points. Je pense pas que l'Armada va se mettre magasiner des joueurs pour aller loin cette année. Ce ne sera pas le cas. On est en transition là, du côté de la troupe, maintenant dirigée par Bruce Richardson. Fait qu'on va probablement transiger à Joel Teasdale, mais l'équipe qui va vouloir l'acquérir va peut-être devoir se mettre les mains dans les poches. Et il faudra voir du côté des acheteurs maintenant que feront les Huskies de Rouyn-Noranda. Ils sont puissants.
Ah ouais.
Le Drakkar de Baie-Comeau. À Baie-Comeau, on a fin de championnat, là, même si on a fait la finale pendant quelques saisons d'affilée, il y a quelques saisons. La troupe dirigée par Martin Bernard a à peu près tout ce qu'il faut pour aller loin cette année, peut-être. Un ou deux éléments qui manquent, dont, entre autres, serait dans la course pour Joel Teasdale, qui, je pense, cadrerait bien avec le Drakkar de Baie-Comeau. Et voyons voir les Moussettes d'Halifax, qui, eux autres, vont recevoir la Coupe Memorial. Puis on va être honnête, les Moussettes, actuellement, n'ont pas la formation pour espérer bien performer au tournoi de la Coupe Memorial. Mais, tu sais, eux autres, il leur reste plusieurs mois à se préparer, sauf que la période des fêtes sera occupée pour Cam Russell et également Éric Veilleux. Alors, quel joueur les Moussettes pourraient être tentés d'aller chercher, parce que je suis pas mal sûr qu'ils vont être assez actifs sur le marché des transactions.
Oui, ils n'ont pas le choix, je pense, en quelque part. Ils sont dans le premier tiers du classement de la Ligue, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment de joueurs qui... Ben, j'allais dire qu'ils font la différence. Oui, ils ont quelques bons éléments, mais tu sais, tu peux pas dire les Moussettes vont être portés par ces gars-là. C'est un ensemble qui fait le succès des Moussettes présentement.
Oui, effectivement. Puis sais-tu, ils me font un petit peu penser actuellement à l'Océanique de Rimouski en 2009. L'Océanique qui avait accueilli le tournoi de la Coupe Memorial parce que sinon, il aurait jamais pu se qualifier. Je m'excuse pour les gens de Rimouski qui nous écoutent. Là, mais en 2009, les deux meilleures formations de la Ligue, c'était les Vultures de Drummondville puis les Cataractes de Shawinigan. Puis il y en a une des deux qui a perdu en finale.
Oui.
L'Océanique était là pour le tournoi parce que c'était dans son colisée, mais sur la patinoire, c'était loin d'être la meilleure formation de la Ligue junior majeure cette année-là. Puis c'est drôle, les Moussettes, actuellement, me font penser un peu à ça.
Mm-hmm.
Old tournoi, confirmé chez eux, correct, on peut s'asseoir là-dessus, mais on n'a pas tous les éléments qu'il faut pour espérer gagner. Mais on est en décembre, le tournoi est au mois de mai, il peut encore se passer un paquet d'affaires.
Et si tu permets, je vais revenir au dossier de Yann Drozd parce que ça me soulève beaucoup de questionnements de dire pourquoi on le monnaierait cette année. Tu sais, quand tu regardes ça, théoriquement, les Cataractes, l'année prochaine, devraient recommencer à gagner sur une base plus régulière. Dans le plan de match, dans le plan de construction d'équipe et tout ça, on devrait être rendu là. Donc, tu échanges ton meilleur joueur. C'est sûr qu'il va y avoir un retour, puis j'ai... Honnêtement, s'il y en a un en qui j'ai pleinement confiance pour aller presser le citron au maximum, c'est bien Martin Mondou. Mais je me questionne à savoir pourquoi un gars comme ça, tu l'échangerais cette année, alors que normalement, tu entames ta maturité année 3, année 4, l'année prochaine.
Sais-tu quoi, Marc-André? Moi, à ta question, mon premier élément de réponse se trouve dans les dernières saisons des Cataractes. Combien de joueurs ils ont perdu pour les professionnels sans rien avoir un retour? 5 dans les 3 dernières saisons.
Ouais.
Comme l'impression que cette fois-ci, Martin Mondou va être tenté justement d'échanger Drozd puis d'avoir des choix de repêchage en retour.
Ouais. Puis tu fais quoi avec les gardiens?
Les gardiens?
Mais surtout Lucas Fitzpatrick.
Ben écoute, ça dépend. Si Martin Mondou si je suis Martin Mondou puis que je reçois des appels pour Fitzpatrick, ça dépend qu'est-ce qui est offert. Mais c'est parce que si tu échanges Fitzpatrick, il faut que tu trouves un deuxième gardien et il n'y a pas nécessairement beaucoup de relève de ce côté-là.
Mm-hmm.
Pour l'instant, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule depuis la semaine dernière. Je garde ça comme ça.
Okay.
Mais c'est Antoine Coulombe, clairement le gardien d'avenir pour les Cataractes. Puis dans le cas de Fitzpatrick, ben, peut-être transiger après la saison là, qui va se terminer le printemps prochain.
À suivre, en tout cas,
mais
ça commence.
Parce que c'est pas facile pour les gardiens de but. Hein. Oui,
ouais, c'est ça. C'est sûr.
Faut qu'il y ait la confiance solide.
Oui.
Mais pour ça, je fais confiance. Steve Mongrain, je pense, est la personne qui est dans la bonne chaise là, du côté des Cataractes pour justement maintenir le mental des gardiens de but.
Ouais, la dureté du mental, disait l'autre. Ça commence en fin de semaine, d'ailleurs.
La période des transactions, ça commence dimanche le 16, alors ça devrait être là pour quelques semaines. Je n'ai pas par cœur les dates de la durée de la période des transactions, mais ça commence le 16.
Excellent. Justement, puisqu'on approche la période des fêtes, c'est Équipe Canada Junior qui commence à se bâtir tranquillement, pas vite.
Oui, parce que le camp a débuté cette semaine du côté de la Colombie-Britannique et c'est quand même assez rapide parce que le tournoi débute dans deux semaines, le 26 décembre à Vancouver également, à Victoria. Ben écoute, sur les 8 joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, je Moi, je vais avec 6 qui vont se tailler une place pour l'équipe. Ben, écoute, un Maxime Comtois, il était là l'année prochaine. Donc, arrive là, il l'a dit en entrevue, je ne suis pas assuré d'un poste, mais il dit, je suis moins stressé que la saison dernière. C'est sûr, il connaît un peu, l'enjeu, puis quoi faire pour se tailler une place. Puis écoute, avec son début de saison qu'il a connu à Anaheim et de la façon qu'il roule du côté des Voltigeurs de Drummondville, ben ça devrait être un automatisme. Par cœur, là, je me rappelle pas des noms des 8 joueurs là, qui seront au camp d'équipe Canada Junior, mais moi, je pense qu'au moins 5 ou 6 là, des joueurs de la Ligue du Québec devraient se tailler une place. Mick Isaac d'Halifax. Ouais. Noah Dobson également. Ouais. C'est pas mal un automatisme. Puis écoute, je vois pas comment équipe Canada Junior pourrait passer à côté de Joe Veleno.
Exact.
Écoute, il y a une trentaine de points dans les 11, les 8, 9, 10 derniers matchs, dont quelques-uns en fin de semaine contre les Cataractes. Mais là, la grande question, c'est Alexis Lafrenière. Tu fais quoi avec Alexis Lafrenière? C'est un surdoué, mais il a 17 ans. Est-ce que tu le prends dans ton équipe en lui donnant des missions peut-être un peu plus défensives? Parce que tu sais, tu as des gars dans cette équipe-là à 18, 19 ans qui vont faire la tâche offensivement parlant. Moi, je le prendrais. Mais ça dépend aussi de tous ceux qui sont là-bas au camp.
Ouais, parce que je me rappelle l'utilisation qu'on avait fait de Sidney Crosby, puis tu sais, sans faire de comparaison, je pense que les deux joueurs sont relativement différents. Mais je pense que tu sais, si, moi personnellement, Lafrenière dans un rôle offensif, ce serait mon choix. Je le verrais pas dans des missions défensives, ce gars-là.
Alexis, pas qu'il est pas capable, tu le gardes avec l'équipe. Je suis à peu près certain qu'il va tirer son épingle du jeu.
Oui, oui.
C'est sûr et certain. Mais imagine s'il retourne à Rimouski, à quel point les autres joueurs vont... Premièrement, ça va peut-être leur mettre un petit peu de pression supplémentaire. Deuxièmement, ça veut dire qu'ils sont bardés offensivement, et pas juste offensivement, mais en termes de talent chez les attaquants d'équipe Canada Junior. Ça reste à suivre.
À voir, effectivement. Les prochains matchs, on espère que des Cataractes dans ce cas-ci, là, pour faire la coupure entre les deux sujets.
C'est une semaine de 3 matchs pour les Cataractes, mercredi à Chicoutimi. Je pense que les Cataractes, malgré qu'ils soient encore démunis avec les joueurs qui sont absents... Ah, d'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, Marc-André, mais Martin Mondou nous l'a confirmé cette semaine au 106.9 Mauricie. La mauvaise nouvelle concernant le défenseur Colin Paradis. Daniel Renault nous avait dit il n'y a pas très très longtemps qu'on pensait peut-être à un retour milieu décembre. Milieu décembre, c'est comme en fin de semaine.
Ouais,
là. Ben non, ça ne sera pas milieu décembre, et c'est même pire que ça, parce que c'est encore un 4 à 6 semaines d'inactivité pour Colin Paradis.
Ouais.
Ça fait mal à la défensive des Cataractes. Olivier Desroches, lui, peut-être cette semaine, sinon ben, ça ira au 28 décembre. Mais je pense que les Cataractes sont capables d'aller chercher le match contre les Saguenay à Chicoutimi. Vendredi à Québec contre les Remparts, et puis samedi pour terminer ça à Shawinigan contre les Foreurs de Val-d'Or, que les Cataractes ont vaincu il n'y a pas très très longtemps. Vite comme ça, les Cataractes, je pense, sont en mesure de gagner les 3 matchs.
Oui,
est-ce que
oui,
ça peut arriver?
C'est accessible, en tout cas.
C'est accessible. Est-ce que ça va arriver? Je pense pas. Une sur 3, OK, le minimum. Mais moi, je fixerais l'objectif à 2 sur 3. Demain, ça, au moins 4 points sur les 6 d'ici à la fin de semaine.
Oui. C'est toujours des équipes qui sont un peu embêtantes, les 3 que tu as mentionnées, mais effectivement... Ça va être intéressant.
Oui, puis surtout à Québec, où les Remparts ne donnent pas nécessairement de grands spectacles devant leurs partisans cette année. Puis samedi, il faut rappeler cérémonie avant le match, alors que les Cataractes vont retirer le chandail de leur ancien gardien de but, Mario Gosselin, chandail numéro 1. Reste à voir, je ne sais pas si les Cataractes vont faire comme Raymond Bourque avait fait à Boston quand il s'avait retiré le chandail numéro 7 de Phil Esposito, qui avait un 77 en dessous de son numéro 7. Est-ce que Luca Fitzpatrick aura un autre numéro sous son chandail? Ça reste à voir.
C'est vrai que c'est un questionnement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui laisses terminer, mettons, sa carrière ou en tout cas sa présence avec les Cataractes avec ce numéro-là, puis tu dis après ça, il n'y aura plus aucun qui va porter ça? Ou tu le changes sur le champ?
Ben, mettons que ça ferait spectaculaire. Ben, ça reste à voir. Donc, bref, mais c'est toujours des cérémonies un peu spéciales. La dernière, ça avait été Pascal Dupuis qui avait vu son numéro 16 retiré par les Cataractes. Alors, Mario Gosselin, qui a marqué mon adolescence dans les années 80, au début des années 80 avec les Cataractes, qui sera à Shawinigan. Et d'ailleurs, il y aura plusieurs anciens, Marc-André, qui seront là de cette époque-là. dont, entre autres, le petit gars de chez nous, Denis Paul, qui vient de Louisville, ancien, je pense que c'était le numéro 8 chez les Cataractes. Ça, je ne suis pas certain, par exemple, là, mais ce que je suis sûr, c'est qu'il vient de chez nous.
Et il était sur un trio où, disons, c'était... Il y en a des plus compliqués pour évoluer, disons.
Écoute, il s'est marqué des points avec ce trio-là que Paul formait avec Patrice Lefebvre et Stéphane Lebeau. Écoute, Patrice Lefebvre, juste le rappeler, c'est lui qui a le record pour le plus de points en carrière dans le junior majeur au Québec, 595 points. Il était juste pas à la bonne époque pour percer dans les circuits professionnels.
Ah, parce qu'il y avait 200 points de saison, quelque chose
écoute,
comme ça.
Hein. Oui, mais dans ce temps-là, c'était pas mal plus axé sur l'offensive que maintenant. Là.
Oui, oui, mais quand même, c'est assez impressionnant, effectivement. Évolué, entre autres, dans les clubs-écoles des Capitals de Washington pendant quelques années, et bien sûr en Europe par la suite. Mais bref, pour revenir aux trois matchs de cette semaine, lesquels sont sur nos ondes?
Écoute, vendredi à Québec, on sera là à compter de 18h45 et samedi, avec l'émission d'avant-match et la cérémonie pour honorer Mario Gosselin, ça devrait commencer sur nos ondes là, autour de 15h45.
Et on va tomber dans la période des fêtes pas longtemps après
ça. Après ça, le prochain match des Cataractes, ça va au 28 décembre et ce sera contre les Tigres à Victoriaville.
Excellent. Donc, un petit repos de quoi, une dizaine de jours à peu près pour les Cataractes.
Oui, puis après ça, après les matchs de la fin de semaine, bien, ça coïncide presque avec le milieu de la saison, puisque les Cataractes auront joué 33 matchs sur les 68 de la saison régulière.
Je vous rappelle, n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos suggestions, vos analyses de cette première moitié de saison des Cataractes, parce que ce sera le sujet majeur de la prochaine balado-diffusion. Merci, Claude.
Salut, bonne semaine.
Merci, bonne semaine, et merci aux gens qui ont écouté, justement, ce podcast.